Bonjour à tous les amis, on est de retour. C'est l'épisode 13 de Rotu Telmillion. Merci beaucoup d'être avec moi. J'espère que vous avez apprécié ce petit hors-série qui vous a été servi au dernier épisode. Il y a donc officiellement un deuxième épisode cette semaine. Ne vous inquiétez pas, je délivre. C'est dans mes OKR personnels d'être très assidu sur ce podcast. Donc, je vous tiens dans mon cœur, ne vous inquiétez pas. Bienvenue dans le podcast. Je vous fais la petite introduction. Je m'appelle Théo, j'ai 25 ans et je suis le fondateur de Kudak, mon agence Ads, qui aide les e-commerçants et les startups dans leur media buying, leur créa et leur tracking. Donc, en 3 ans et demi, mon entreprise a atteint 350 000 euros de chiffre d'affaires mensuel et plus d'une cinquantaine de salariés. C'est une aventure que j'ai documentée auprès de mes 293 000 abonnés, toutes plateformes confondues. Ça se répartit de façon totalement inéquitable entre, par exemple, les 74 000 sur LinkedIn, les 52 000 sur YouTube, et ce sur Instagram, mon podcast, etc. Et donc, l'étape suivante, c'est d'emmener cette petite entreprise à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et c'est ce challenge qui donne notamment le nom au podcast. Et donc, j'ai pour objectif de le faire avant novembre 2024, et on va en reparler un tout petit peu plus tard dans cet objectif quand je vous parlerai. Enfin, on va en parler à toutes. Bref, ma phrase n'avait pas trop de sens. Je suis désolé, il est tard, il est 22h45, on est mardi 12 septembre, mais je délivre ce podcast. Vous allez voir, j'ai plein de choses à vous raconter. Donc, je vais en reparler dans les actus professionnelles de la semaine, parce que j'ai fait un petit point à l'équipe dont je voulais vous parler, qui a notamment abouti à la deadline de novembre 2024. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, dans cette émission, je me sers de mes expériences personnelles, de mes rencontres et de mes lectures diverses pour vous apprendre comment atteindre le top 1% dans ce que vous faites. Et sauf que pour se hisser à cette hauteur, il faut apprendre à réfléchir et agir différemment des 99% forcément. Voilà. 99% des gens, normalement, j'ai une fin à cette phrase. Bon, l'intro, elle n'est pas trop rodée, hein, d'ailleurs. Hein. Elle était un petit peu longue, on me l'a dit d'ailleurs en commentaire, donc je la fais plus courte. Et j'ai un dernier paragraphe, après, on rentre dans le dur, vous inquiétez pas. Parce que la croissance, c'est comme tout, c'est une compétence qui s'apprend. Il y a des principes qui traversent les époques, et moi, c'est cela que je cherche. Donc que ces astuces soient professionnelles ou personnelles, j'essaie de faire en sorte que vous terminiez chaque épisode en ayant appris au moins une chose qui vous aide à grandir plus vite ou plus loin. Merci d'être avec moi et bienvenue dans l'épisode 13 de Rotu Telmillion. Jingle non existant. Peut-être que je m'offrirai une régie pour la saison 2 du podcast, je ne sais pas. Mais je pense que vous n'êtes pas prêt encore pour des jingles. Vous ne méritez pas encore, vous n'avez pas mis assez de notes sur Apple Podcast et Spotify. Précédemment dans Rotu Telmillion. Alors bon, où est-ce qu'on s'était laissé la dernière fois? On rattaquait gentiment le mois de septembre hein, quand même. On sortait de juillet, août. Donc ouais, voilà, la dernière fois qu'on a fait le podcast, vu que j'enregistre un peu en retard, c'était il y a 9 jours, donc on est le 12. Voilà, c'était tout début septembre. Voilà, on était contents, disons, hein, de sortir de l'été, parce que l'été, particulièrement pour les agences, c'est des mois qui sont super calmes, parce que c'est pas les mois où les gens dépensent le plus d'argent en publicité. Donc forcément, c'est pas les mois où on a le plus de travail, nous. C'est pas non plus les mois où les entreprises prennent des décisions sur leurs prestataires. Donc, on en a profité pour faire plutôt du travail de fond, comme je pense le font la majorité des boîtes l'été. On a retravaillé notre process de vente, je vous en avais déjà parlé, j'ai fait pas mal de points, je vous ai détaillé, mais la différence, c'est que ces 10 derniers jours, on a eu des wins de chiffres dont je vais vous parler. C'est-à-dire que tout ce travail qu'on a fait dans l'ombre, tranquillement, en août, il a porté ses fruits, et donc tous les deals qu'on a ouverts avec ce nouveau process, on a vu une différence drastique. Je vais vous en parler plus en détail. Voilà, dans l'épisode précédent, j'avais reçu, enfin, c'est pas l'épisode, parce que quand je dis l'épisode précédent, en fait, ça fait référence à deux choses, j'ai pas envie de vous embrouiller, c'est à la fois l'épisode 12, mais aussi ce petit hors-série numéro 2, dans lequel, pour la première fois, j'ai reçu des invités dans Rotu Telmillion, j'ai reçu mes amis de Slick, je vous invite à aller l'écouter si jamais ça n'est pas encore le cas. C'est Adrien et Antoine qui sont aussi un peu des références quand il s'agit d'atteindre le top 1% de ce qu'ils font. Ils l'ont fait sur TikTok, on a été concurrents pendant 9 mois, je crois, 12 mois, avant que je jette l'éponge et je rende les armes. Non mais en plus, on en a parlé pendant l'épisode, on s'est assez peu affronté sur des appels d'offres, même pas du tout. Donc non, bref, ils ont réussi à faire un truc que j'ai pas fait, c'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup de discuter avec eux. Et bon, je le fais déjà depuis pas mal de temps parce qu'on est potes, et ils m'ont parlé même au tout démarrage, juste avant que leur boîte soit créée. Et donc, c'était justice que de les faire passer dans ce podcast. Donc je vous invite à aller écouter ça parce qu'ils ont livré quand même beaucoup d'informations. Même à la fin, quand on a coupé l'enregistrement, je me souviens qu'Adrien a dit qu'il a failli arrêter Antoine parce qu'il donnait trop d'informations et que c'était un contenu qu'il aurait bien aimé avoir quand il montait une agence. Donc voilà, si jamais c'est votre cas, allez-y. Je prends une petite gorgée d'eau. J'ai déjà soif, j'aurais dû boire avant. Alors, dans l'épisode précédent, une autre chose qu'on avait traité, on avait remis les pendules à l'heure sur ces deux petits zigotos sophistes. Sophistes dans le sens sophisme, hein, rien à voir avec le fist. Et, oh, voilà, hein, c'est pour ceux qui n'auraient pas compris, parce que parfois, j'articule pas très bien. Bon, on n'a eu aucune nouvelle hein, depuis cette remise des pendules à l'heure. J'imagine que c'est bon signe. Je pense pas qu'ils soient en train de fomenter un truc. Dans tous les cas, je serais prêt à reprendre les armes si nécessaire. Mais c'est un peu ambivalent hein, ce que je pense de cette partie sur le dernier épisode. Je suis très content de l'avoir fait, d'avoir pris les armes pour me défendre. Mais ça m'a quand même pompé beaucoup d'énergie. Je suis pas très belliqueux de base. Mais j'adore aller au combat quand on m'attaque, par contre. Voilà, bref, donc on avait fait ça. Allez l'écouter. Je m'envolais pour le GP Explorer. Je vous l'annonçais à la fin du dernier épisode. Et je voulais aussi vous annoncer que le podcast a passé les 25 000 écoutes. Donc merci beaucoup. Et si vous voulez soutenir ce podcast, continuez à le soutenir en plus de l'écoute que vous me donnez actuellement et pour laquelle je vous remercie. Allez mettre une note. Et ce que vous pouvez mettre en commentaire de cette note, mettez votre épisode préféré des 13 là. Parce que comme ça, ça permettra aux gens qui découvrent le podcast de savoir par où commencer. Et je vais tirer une personne au sort parmi toutes les personnes qui auront mis une note suite à cet épisode, donc l'épisode 13, hein. Donc, ça veut dire qu'il y a une semaine pour mettre la note jusqu'à ce que le prochain sorte, et il recevra une petite invitation au prochain enregistrement d'Enlève tes chaussures. Je vous rappelle qu'on a tiré quand même une personne qui va venir, parce qu'on enregistre demain le prochain épisode d'Enlève tes chaussures, avec une personne que vous connaissez très certainement, dont je vous parlerai un petit peu plus tard, vous inquiétez pas. Donc on délivre ces trucs-là, quand je vous dis que je tire quelqu'un au sort, j'ai tiré une personne au sort, et demain elle vient. Donc, il s'appelle Rémi, et j'ai hâte de le voir. Donc, je vais vraiment tirer quelqu'un au sort, aller mettre une note. Et bon, bah, 5 étoiles si vous trouvez 5 étoiles, moins si vous trouvez que c'est moins. Mettez l'épisode que vous avez le plus kiffé. Voilà, et si vous voulez vraiment surdélivrer, donc être vraiment fuck the average, comme on dit chez Kodak, vous pouvez aussi envoyer l'épisode à un pote, enfin, l'épisode qui vous a plu, cet épisode en même temps que vous commentez et que vous mettez la note. Envoyez-le à un pote qui ne connaît pas le podcast, pour moi, c'est énorme. Et peut-être qu'ensemble, voilà, je vous rappelle que le but, c'est quand même d'aller gratter les couilles de Yomi et d'Oussama, et on a encore un petit peu de chemin dans les charts, même si on commence à se placer de façon de plus en plus régulière dans les classements. Les gens comprennent, et puis on joue pas avec les mêmes armes aussi, hein. Je me trouve déjà une excuse comme une petite salope. vu que c'est un solo podcast, et le solo podcast, bon, bah, tu bénéficies pas de la notoriété de l'invité que tu reçois. Mais c'est pas l'objectif, j'enlève tes chaussures pour ça. Bref. Au menu de cet épisode de Rototémienne, on est déjà à 8 minutes d'enregistrement, il s'agit quand même d'annoncer le sommaire. On va commencer par parler de l'actualité de la semaine pour Kodak et moi-même. Je vais notamment vous parler de ce que j'ai pensé du GP Explorer où j'étais ce week-end invité. Ça s'est très bien passé. Ensuite, on va remettre les pendules à l'heure. J'ai quelques points à partager, j'ai noté que j'en avais 4, mais j'en ai rajouté 6. Enfin, donc 2, il y en a 6 au total. Donc on va remettre les pendules à l'heure. Ensuite, j'ai rajouté une petite section entre les deux, que je voulais appeler au début le meilleur et le pire de la semaine. C'est-à-dire que je voulais trouver les contenus qui m'avaient le plus inspiré, que je voulais vous partager, et ce que j'avais trouvé le plus ridicule. Et en même temps que j'étais en train de le faire, je déroulais des posts LinkedIn, et là, je frissonnais de gêne, mais ça, bon, c'est habituel hein, quand on balade sur LinkedIn. Et je commençais à réfléchir un peu à ce que je pourrais dire sur un post, et je me suis dit, mais attends, je vais quand même pas passer de l'énergie à essayer de démonter une pauvre personne, même si je cite pas son nom. Donc voilà, je pense que je suis moins belliqueux que je ne le pense. Donc, ce sera uniquement une section le meilleur de la semaine. Je vais juste vous partager les contenus que j'ai trouvé intéressants. Mais s'il y a un fils de pute qui m'attaque, on répondra. Voilà. la section d'après, normalement, c'est le performance check. Là, c'est une section que j'ai décidé de mettre en option quand j'ai le temps de vous rédiger un truc bien construit, parce que j'ai pas envie de faire de la merde là-dessus. Je vous ferai un petit exposé, mais je pense que je vais concentrer la valeur sur les pendules à l'heure, en fait, qui est une section qui me permet d'avoir un peu mes méditations, entre guillemets, à la volée. Et qui me va très bien, qui permet d'avoir l'assiduité, de vous sortir un podcast chaque semaine, et d'avoir un peu simplement des réflexions à vous partager, parce que c'est comme ça que je fonctionne avec tous les trucs que je note dans mes petites apps, là, dans l'app note, je note dans mes notes, oui, et que je vous repartage le week-end, voilà, ça me permet de rajouter juste un petit peu de travail de réflexion dessus, mais je peux vous le préparer en une heure, ce podcast, pas plus. Donc, et à la fin, évidemment, je réponds à vos questions pour m'en poser, comment ça se passe, c'est sur Instagram, @theo.le.lyon, dans lequel vous pouvez poser vos questions. Je fais une petite story 1 à 2 jours avant l'épisode et j'y réponds dans la toute dernière section. On passe tout de suite aux actus perso. Il y en a beaucoup hein, cette semaine. Et on commence évidemment par ce que je vous avais annoncé, le Grand Prix Explorer 2. Alors, je vous raconte comment ça s'est passé, le Grand Prix Explorer, et pourquoi est-ce que je suis invité là-bas. C'est très lié au titre de ce podcast. J'ai eu la chance d'être invité par le seul, l'unique, la jeune pépite Jules Palatin, fondateur de Netcord, l'agence de création de serveurs Discord de référence en France. Il n'a pas des milliards, mais c'est lui qui est le mieux positionné aujourd'hui. Ça fait plaisir. Et donc, il a la chance, ou la chance que dis-je, il a tellement travaillé qu'il a réussi à obtenir comme client le GP Explorer. Donc, c'est lui qui a créé le serveur et qui a fait toute l'animation de la communauté pour les quelques 50 000 personnes, il me semble, qui sont sur ce serveur. Il y a même des gens qui, au GP Explorer, l'ont reconnu, lui ont fait des câlins en mode « Oh putain, c'est toi, Jules, de Discord et tout. » Donc, donc c'est très lourd et il a gentillesse de me donner une invitation. On en a profité du coup pour faire la petite photo que vous avez certainement vue sur LinkedIn d'annonce du rachat. Ça collait parfaitement en fait avec le timing puisqu'on a signé les papiers genre 2 ou 3 jours avant le GP. Donc génial, finalement, ça a bien fait de prendre du temps parce que ça fait quelques temps qu'on travaille sur le deal. Mais j'ai une section dessus dans les Actus Pro, donc j'empiète pas. Je voulais vous dire surtout ce que j'ai pensé du GP Explorer. Donc, j'ai pas fait énormément de Grand Prix. J'en ai fait qu'une seule fois, j'avais aussi été invité. Et donc, j'avais pas forcément vu en fait quelle était l'organisation globale d'un Grand Prix. C'était le Grand Prix de France il y a 3 ou 4 ans. Mais là, le GP Explorer, j'ai... Bon, à part, il se trouve que bon, pour les personnes qui regardaient en ligne, la course était nulle à chier. Parce que bon, ceux qui ne l'ont pas regardé, il y a une meuf qui est rentrée dans un mec, qui l'a pété genre au deuxième tour. Du coup, il y a eu 5 tours de safety car. Donc en gros, tu ne peux pas dépasser, c'est extrêmement chiant. Et après, drapeau rouge, tout le monde au stand. Et bon, il y a eu 8 tours. Il y a eu une seule bataille, en fait, qui a eu lieu entre, je crois que c'était 9e et 10e, c'était Mister V et Gotaga, qui était intéressant, mais il n'y a pas eu de suspense devant, quoi. Mais au global, pour ceux qui étaient présents sur place, moi, je n'ai pas fait l'édition l'année dernière, j'ai trouvé ça vraiment impressionnant. Et ce, pour plusieurs raisons. D'abord, l'échelle de l'événement. Je n'avais pas du tout capté qu'il y avait autant de personnes, et en plus, qu'il y avait autant d'ambiance. Les gens étaient déchaînés. Il n'y avait que 60 000 personnes. Apparemment, on m'a dit que quand c'est les 24 heures du Mans, c'est 4 fois plus. 240 000 personnes qui sont sur place. Et l'organisation était nickel. Moi, je n'ai pas eu un seul embouteillage. Parking nickel. Enfin, tu te diriges sans problème sur le circuit. Ça se voit vraiment qu'ils ont l'habitude d'organiser ce genre d'événement. Et en fait, quand tu vois la taille, les stands, la patate qui a été mise sur le détail par les sponsors, etc., pour animer les événements et tout, tu pètes un cap. Tu dis, putain, attends, mais vraiment, ça doit être en fait. Je me suis dit, quand je suis allé là-bas, je me suis dit, mais putain, en fait, c'est sûr, c'est dans le top 5 des plus gros événements de l'année, ce truc-là. Peut-être pas en termes de nombre de personnes, même si 60 000, c'est énorme. Mais en fait, c'est un festival, le truc. C'est énorme. Donc c'est le premier truc qui m'a impressionné. Et ensuite, ça m'a permis de mesurer quelle était l'influence de ces personnes sur Internet. Et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que je fais peut-être partie, pour ceux qui ont à peu près mon âge, donc j'ai 25, je vais sur mes 26, donc je suis de 97. Vous avez été normalement la première génération de watchers de YouTube. Quand les premiers influenceurs sont arrivés, donc les Norman, Cyprien, etc., qui venaient de Dailymotion à l'époque, quand même, il me semble. Mais après, il y a eu une. Donc, j'ai vu toute cette vague de création de contenu. Je vois évidemment ce qu'est un influenceur, un créateur de contenu, etc. J'ai grandi avec YouTube, mais il y a une vague que j'ai ratée, je me suis rendu compte, c'est la vague streaming. Un streamer, je suis arrivé quand j'ai arrêté de regarder du contenu gaming globalement, quand j'ai commencé à avoir 18 ans, 19 ans, un truc comme ça, quand je suis arrivé en prépa peut-être. Là, il y a eu toute cette vague que je n'ai pas vue arriver et qui s'est mise en place avec des gens que je n'ai pas vu arriver. Je pense que c'est la vague, je ne sais même pas s'il y a des streamers d'ailleurs au sens propre, mais les Michou, les Inoxtag, etc. Bon, moi, j'ai arrêté quand ils ont commencé à arriver, ces gens-là, probablement. Et donc, j'ai capté que ces gens-là avaient une influence monumentale. Ceux qui étaient là-bas savent, l'ambiance qu'il y a au GP Explorer, c'est un truc de où ça scande les noms des gens, mais comme si c'était des rockstars. J'étais choqué de voir ça. Et surtout, évidemment, tu as un petit défilé. Donc, on avait la chance, on était en loge avec le GP, du coup, avec la loge de Jules. Donc, on voyait un petit peu des têtes passer. Alors, j'en connaissais certaines, mais j'avais régulièrement Jules qui me disait « Bon, bah là, on vient de croiser 10 personnes qui ont 1 million d'abonnés. » Et ben, j'avais reconnu personne, en fait. Je me suis rendu compte, j'avais accepté. Ça m'a fait un peu bizarre parce que j'ai accepté qu'il y avait une génération en dessous de moi. Donc, c'est un petit peu comme... quand tu as le jeune qui a un petit peu l'espoir, etc. Et en fait, tu te rends compte que progressivement, il vieillit. Comme Mbappé, maintenant, il a 25 ans. Ce n'est plus une jeune pépite, en fait. Maintenant, c'est juste un putain de joueur mondial. Il faut qu'il délivre. Donc, j'ai découvert qu'il y a des espoirs qui arrivent derrière moi. Je suis très content de les avoir dans mon équipe parce que je fais évidemment référence à Jules là-dessus. Donc, ce GP Explorer, ce que ça a eu comme impact sur moi, Et une des raisons pour lesquelles je vous recommande d'y aller, si vous êtes un entrepreneur, c'est que ça élève le niveau d'ambition. Je me dis qu'en fait, voilà, moi je suis tout mignon avec mes 3 à 4 millions de CA. Il y a des gens, ils font ça. Ils font 60 000 personnes, courent sur un circuit, des sponsors de haut. J'imagine même pas combien ça coûte d'avoir une écurie. Moi, j'ai pas Explorer. Donc, c'est monstre. Franchement, je vous recommande GP Explorer. Ensuite, quelques autres actualités de la semaine. En tant que bonne influenceuse qui se respecte, j'ai reçu une invitation pour la première fois à une avant-première de film. Je suis allé voir donc les deux premiers épisodes de la série sur Bernard Tapie. C'était sur un... Je sais plus quel ciné, sur les Champs-Élysées. Donc, il y avait évidemment du beau monde aussi là-bas. C'était très sympa. Moi, j'aime beaucoup hein, les trucs comme ça quand je suis invité. Je trouve ça très flatteur. J'étais super bien accueilli. T'as l'impression d'être une star alors que juste t'as 30 000 abonnés sur Instagram et du coup, voilà, t'es invité pour faire des stories quoi simplement. Mais c'était quand même très sympa de voir cette série. Et en plus, la série franchement est pas mal. Donc elle sort demain et c'est avec, comment il s'appelle, Laurent Lafitte qui joue très bien honnêtement dedans. J'ai vraiment adoré, c'est très bien storytellé. Ils disent bien que c'est une fiction et que c'est pas un biopic, donc c'est librement adapté. Mais bon, il y a un truc, je sens que ça va faire et en le voyant, les trucs, c'est que ça va encore véhiculer une image à l'ancienne de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire de l'entrepreneur tapis là qui perd tout, qui mise tout, qui prend de la dette, qui vend des plans sur la comète, etc. Et donc, je sens qu'il y a des gens un peu cons qui vont mater ça, qui vont dire que c'est ça être un entrepreneur. Et donc, on va avoir peut-être une petite génération de mini tapis qui vont essayer d'enculer tout le monde. Ouais, bref, non mais bon, écoutez, vous savez, ça reste une très bonne série à regarder que je vous recommande, et voilà, je vois très bien ça va faire comme The Social Network, c'est-à-dire que tu ne peux pas faire un film sur un entrepreneur sans grossir des traits et faire croire que par exemple un Zuckerberg est un fils de pute. En fait, dans tous les films d'entrepreneuriat, les entrepreneurs sont des fils de pute qui aiment trop l'argent. Donc, je sais pas comment termine la série, parce qu'on a vu que les deux premiers épisodes, mais je pense qu'il y a un peu plus de respect en France pour Tapie, parce que les gens, c'est un truc que j'avais pas capté, mais il le disait quand du coup, les acteurs étaient sur la scène avant le film, c'est qu'il y avait vraiment toute une génération, qui est entre, à partir de 1900, je crois c'est choc pétrolier, donc 73, donc jusqu'à les années 2000, qui a grandi avec Tapie. Et j'ai envie de savoir, j'ai pas pu comprendre encore pendant ces deux premiers épisodes pourquoi est-ce que les gens ont dit qu'ils avaient grandi avec Tapie, sûrement parce qu'il a dû faire quelque chose dans les médias, etc. C'est quelqu'un dont je connais pas bien la vie, mais je peut-être qu'il y aura un... En fait, quand on m'a dit ça, je me suis dit, mais putain, mais j'aimerais bien être l'équivalent de Tapie. Ce truc-là de faire vivre avec toi, vivre aux gens avec toi ton aventure entrepreneuriale. Et je vous dis ça, et après je vais découvrir sa vie, je vais faire, ah, mais quel enculé, en fait. J'ai pas du tout envie d'être ce mec. Bref, donc je vous recommande la série. Les deux épisodes étaient très prometteurs. Et je vous fais maintenant un petit update, c'est la fin des actus perso juste après. On passe aux actus pro. Sur mes deux challenges qui sont en cours, je vous rappelle le challenge sécher pour scaler, qui a pour but de se faire flasher à 10% au Dexascan. Ça se passe très bien, je suis dans les clous, honnêtement. Suivez-moi sur Instagram d'ailleurs si vous voulez voir comment ça se passe. On est à la 6e semaine. Enfin bref, je vous en ai pas trop parlé dans les autres épisodes, donc ça va peut-être sortir de nulle part, mais... Donc je suis actuellement à 65% de l'objectif, 70% de l'objectif. Je suis dans les clous, parce qu'il n'y a que 65% de mes 9 semaines qui sont écoulées, 8 semaines, 8 ou 9 semaines, je ne sais plus exactement, je crois que c'est 9. Donc ça se passe bien, je sèche bien, j'ai perdu des kilos et tout, si vous voulez aller voir comment je fais, allez sur Insta. Et l'autre challenge, c'est le semi no prep, à la base, mais qui est devenu semi avec un petit peu de prep quand même, t'as eu, parce que c'est vraiment chaud sinon. Donc là, je suis allé courir trois fois la semaine dernière, c'est vraiment rentré dans les habitudes, le running, c'est dingue comment ça prend vite. Et notamment, on a fait la première sortie longue, j'avais jamais couru 16 km, je l'ai fait pour faire un repérage du Paris-Versailles que je vais courir dans 2 semaines. Et putain de sa mère, ceux qui l'ont déjà couru savent ce qu'est la Côte des Gardes. Parce qu'on est parti courir à 4 avec Guillaume, Jordan et Jules, le même, hein, le Jules de Netcord. La Côte des Gardes, en fait, on s'est arrêté au milieu parce qu'on a perdu Jules dans la première partie. On est parti un peu vite. Jules, il n'avait pas couru depuis 2 ans, je crois. Il a porté ses couilles, il est venu avec nous. Quand même, alors c'était la pire sortie, la plus dure. Donc on a fait voilà, de la Tour Eiffel jusqu'au château de Versailles en running. Ça fait 16 km avec de la montée, un peu de forêt et puis la ligne droite à la fin vers le château de Versailles que je connais bien parce que vous savez, que j'en suis originaire. C'est terminé pour les actus perso. C'est le seul moment de la semaine où j'ai le droit de raconter ma vie. C'est cool. Actu pro, 4 points à vous partager. Je vous disais qu'on avait travaillé sur les sales. Eh bien, ça s'est traduit par des résultats tangibles. La semaine dernière, nous avons fait une semaine record. On a signé 47 000 euros de contrats. C'est en valeur mensuelle, hein, nous, qu'on mesure les contrats toujours. Hein, donc, avec tous les contrats, il y a une bonne partie là-dedans qui sont du MRR. Donc, si vous voulez faire en valeur annuelle, vous pouvez faire quasiment x12, ce truc-là. C'est une de nos semaines records. Je ne sais pas si on a déjà fait ça. Et c'est parce qu'on a eu les réponses sur des appels d'offres qu'on avait négociés différemment avec tous les trucs sur lesquels on avait travaillé en août. Donc, avoir des propals, des roadmaps, comme on les appelle chez nous, vous savez, qui étaient plus cohérentes, mieux structurées et qui répondaient mieux aux problématiques du client. Donc, je rentre pas dans le détail parce que ça va vous barber sinon et je suis pas sûr que ça intéresse tout le monde. Mais ça a bien marché et surtout, on a eu la chance d'avoir une très bonne nouvelle de signature d'un gros client sur lequel on va pouvoir communiquer bientôt, juste avant le team building de l'équipe performance chez Kodak. Donc, on était tous ensemble. Ça nous a fait, ça crée, et je sais pas si vous voyez qu'il y a une bonne nouvelle avant une réunion avec tout le monde, c'est l'équivalent d'une célébration. Donc, en fait, le week-end est devenu un week-end de célébration, les deux jours. On était tous ensemble dans une baraque près d'Amiens. C'est super. Donc, on a fait une petite classique entreprise, un escape game, super sympa. Puis, on se fait un barbecue et on s'est mis une biture le soir. Somme toute assez classique, voilà. Hein. Et donc, c'était un carton de célébration. Je me suis mis beaucoup trop mal. Je crois que ça avait 5 ans que je n'avais pas bu comme ça. Pour vous dire, c'était au point que le lendemain, sur le retour, j'ai fait un arrêt, bande d'arrêt d'urgence pour mettre une petite galette sur le bord de la route. Donc ça fait longtemps, je pense que depuis mes années école de commerce, ça ne m'était pas arrivé. Mais pour qu'on soit obligé de même pas pouvoir attendre l'air d'autoroute, il fallait que ça s'arrête. Vous imaginez mon état. Et donc forcément, c'est un peu corrélé au fait que le challenge séché pour scaler et pris un petit peu de retard cette semaine. J'ai quand même réussi à rattraper les clous. Voilà, et donc ça m'a fait réfléchir au fait que je pense que la seule raison qui est OK pour se mettre mal et de manière générale claquer de l'argent, etc., c'est pour célébrer le travail. Donc, c'est une maxime qui m'arrange bien a posteriori. Voilà. Ensuite, j'ai fait un point très important à l'équipe qui s'appelle le point Welcome Back, où j'ai rassemblé tout le monde parce que tout le monde était rentré du coup la semaine dernière. Donc, je voulais un peu remotiver l'équipe pour le départ dans cette nouvelle année. Et l'idée générale était quoi ? C'était de mettre tout le monde d'accord sur quel était le constat sur l'état de la boîte et son état de croissance. Et donc mettre tout le monde d'accord aussi sur le fait que si on en croit nos chiffres des 6 derniers mois, 9 derniers mois, nous ne sommes plus une boîte en hyper-croissance. On grossit toujours, mais mettre tout le monde d'accord là-dessus, ça m'a permis de reclarifier derrière quels étaient les standards qu'on attendait chez Kodak. Et c'était pas du tout faire 30% de croissance annuelle, on s'en branle, on veut faire x2. C'est ça qui a amené notamment à fixer une deadline qui était en fait un truc qui manquait dans le challenge Road to 10 Million. C'est exactement comme mon challenge sur perte du poids, et sécher, j'ai une date de fin. Je perds tant de temps, tant de poids avant telle date. Et ça ne veut pas dire que je vais arrêter de travailler après la date, mais ça donne un objectif. Et donc ça manquait. Donc on s'est dit novembre 2024. Pourquoi novembre ? Parce que c'est le mois sur lequel on a la saison la plus haute, là où les gens dépensent le plus en publicité, souvent. Et donc nos e-commerçants, c'est là où il y a de l'activité. Et c'est là où on peut taper une pointe à 833, possiblement. 833 000 hein, l'année prochaine, je l'espère. Donc novembre 2024. Et donc, j'ai recentré un peu tout le monde sur les fondamentaux de notre croissance, les trucs qui nous avaient bien porté. Allez voir le dernier épisode de Road to 10 Million qui est sur YouTube, qui est étrangement cohérent d'ailleurs avec ce que j'ai raconté dans le point. C'était pas prévu. Parce que Road to 10 Million, j'ai enregistré il y a un mois et demi, quand même, 2 mois. Et ensuite, oui, on a mis en place un nouveau rituel dans la culture. Très marrant. C'est que pour préparer l'international, parce que vous savez que c'est le truc qu'on va vouloir faire après 10 millions, et dans le but de se familiariser avec la langue anglaise pour aller consommer du contenu là où il est produit par les meilleurs, à savoir aux US, où nous avons instauré les US Tuesdays chez Kodak. Donc maintenant, tous les mardis, Kodak parle anglais, à l'écrit uniquement. Et la sanction, c'est quand tu lui envoies un message en français par inadvertance, tu dois partager le contenu d'un créateur US que tu as bien aimé. Donc ça permet à tout le monde de se former en même temps. Ça marche super bien, on en est déjà au deuxième là, parce que nous, on est mardi, la journée vient de se terminer. C'est très très drôle. Et puis c'est un truc qui est un premier pied, disons, vers l'américanisation de Kodak, parce que vous savez qu'il y a ChatGPT, DeepL, etc. C'est pas très compliqué de se débrouiller à l'écrit. Après on le mettra à l'oral, peut-être qu'après on le mettra sur plus de jours, je ne sais pas, mais dans tous les cas ça a bien plu à l'équipe, ça les a fait rire. Donc voilà, c'est tout ce qu'on aime, ça montre que c'est un point de culture qui va probablement rester. Troisième actu pro, nous avons tourné hier, donc lundi, Pimp My Brand, la partie 2, parce que vous savez qu'on fait l'épisode en deux parties, une partie présentation des challenges pendant 4 mois de travail, une partie présentation des résultats, et ça s'est super bien passé. On l'a tourné avec une marque, bon si vous avez vu ma story sur Instagram, vous savez qui c'est lunettes pour tous, une très très grosse marque retail, voilà, donc un vendeur brick and mortar comme on dit chez les Américains. Et bien, je crois bien que notre format va être cool, honnêtement. On a tout ce qu'il faut, du moins sur le papier, pour faire un banger. J'ai trop hâte. Donc ça va être de la dinguerie, je suis trop content. Et... enfin bref. Oh là, j'ai perdu mon micro. Je suis trop... c'est très cool, on a tourné dans sa boutique. Paul, donc le fondateur de Lunettes pour tous, a été adorable. Donc c'est génial. Et on passe à la dernière actu pro, la plus importante, celle qui a donné le titre à cet épisode. Hier, nous avons aussi communiqué sur un événement non moins important que Pimp My Brand, donc les roadmaps, le point Welcome Back. C'est le rachat ou l'intégration dans le groupe, plus précisément, de Netcore, donc la société de Jules. Ça fait 6 mois qu'on est sur les putains de papiers, même plus d'ailleurs, je pense qu'on en parle depuis janvier, donc ça fait 9 mois, putain. Ça a pris énormément de temps parce qu'il y a beaucoup de choses à régler avant de faire une opération comme ça. Notamment la constitution d'une holding entre les associés, parce qu'en gros, le détail du deal, c'est que ce n'est pas Kodak qui est directement actionnaire de Netcord, c'est une holding constituée par les associés. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? C'est parce que je ne voulais pas... En fait, je suis très majoritaire dans Kodak aujourd'hui, dans la capitalisation de la boîte, et je n'avais pas envie que sur les boîtes dans lesquelles on allait rentrer derrière, je sois autant majoritaire. Donc j'ai voulu reluer un petit peu mes associés, pour faire x2 ou x3 sur leur participation, et réduire un peu les miennes. Et donc, on a constitué une holding avec une répartition différente qui permet de rentrer dans les boîtes et qui est quand même voilà, associée à Kodak, qui permet de recevoir un petit peu tous les trucs qu'on promet à ces agences. Et donc, en gros, nous, ce qu'on promet très simplement dans les deals de l'écosystème d'agences, c'est 4 trucs. On apporte des clients, de la notoriété slash crédibilité. C'est un peu différent d'apporter des clients. La crête, c'est très important pour une agence, c'est pour arriver sur des gros deals, parce que ça prend du temps et de la réputation. La mutualisation de l'admin, donc on fait travailler ma responsable financière, Agathe, je t'embrasse, ma DRH, Émilie, je t'embrasse, et possiblement voilà, mon équipe sales, etc. Pour que le fondateur n'ait pas à se casser les couilles. Et 4e chose, c'est évidemment le mentoring qu'on se voit toutes les semaines. Les boîtes sont intégrées dans notre Slack, etc. Et on aide à scaler la boîte. Et donc l'objectif, c'est de faire 0 à 100K, enfin RTM, donc retour 1 million à peu près, en 12 mois, sachant qu'on a pris un petit peu de temps, un peu de retard sur les... si on avait vraiment mis comme point de départ janvier avec ces boîtes-là, mais on pense qu'il y a moyen d'aller assez vite. Donc c'est super, on est très très contents, j'avais vraiment envie de vous en parler. En fait, je crois qu'il n'y a que dans ce podcast que je l'avais teasé, donc si vous écoutez assidûment le podcast, vous savez que je trépigne, je trépignais, disons, à l'idée de vous l'annoncer, parce que c'est très cool, c'est la 4e agence du groupe. Il y en a d'autres, si vous avez suivi, qui vont arriver, donc on va continuer à faire des annonces, on va continuer à développer. D'ailleurs, si vous êtes un fondateur, que vous faites voilà, moins de 20 ou 30 000 par mois, et vous voulez qu'on vous aide à scale, on peut faire ce genre de deal avec vous aussi. Et donc à réfléchir, on peut discuter. Donc on est trop content d'avoir Jules intégré, parce que c'est une en fait, sur le papier, ça peut sembler un petit peu un défocus, ce que fait Jules, parce que c'est quand même la création de communautés Discord, enfin de serveurs Discord et l'animation derrière de ces serveurs. Donc en gros, les clients types, c'est quoi? C'est des institutionnels, genre il bosse avec la SACEM, c'est un truc de ouf, le GP Explorer, le Festival de Cannes, par exemple, et aussi des créateurs de contenu, donc il bosse avec, je sais pas si vous connaissez Clément Vanier, il est en discussion avec plein de clubs de foot aussi, mais enfin des top clubs de Ligue 1, c'est un truc de ouf. Et donc c'est pas des cibles qui sont e-commerce à la base. En revanche, c'est quelque chose qui synergise pas trop mal avec notre vision globale, d'intégrer tout le funnel d'acquisition. Donc on a tout l'ads, etc. Et ensuite derrière on pourra avoir, enfin on a l'ads, l'acquisition et tout. On a, en fait, je voyais, je cherche un peu mes mots parce que j'ai pas envie de vous teaser, de vous révéler les agences qui arrivent derrière. Donc faut que je fasse gaffe à ce que je dis. Mais donc globalement ça permet d'aller plus loin une fois que l'acquisition est faite de clients. Qu'est-ce que tu fais avec les clients? Tu les mets dans une communauté. Tu essaies d'entretenir ça. Mais il se trouve que les clients types pour ça, c'est pas directement les e-commerçants. On l'a découvert avec le temps. Je savais pas au démarrage. On a été assez mobile sur la cible. On a découvert que c'était un peu les créateurs de contenu, etc. Et donc, on est très content que ça puisse, que ça ait pris sa propre vie. Et dans tous les cas, ça peut devenir assez énorme. Et ce qui est assez bluffant, c'est que Jules a 20 ans. Voilà. Donc, les Mbappé sont de plus en plus jeunes. Ouf. Voilà. Bienvenue. Dernière partie avant de passer au pendule à l'heure, les 6 pendules que nous allons raccorder, 6 ou 7, 6, 6 pendules que nous allons raccorder, sortie contenu de la semaine. Nous avons sorti 3 vidéos ces dernières semaines, une vidéo sur la Linker House, donc cette semaines, c'est 3 jours, 4 jours. Donc, il va nous avoir rassemblé 10 des plus gros influenceurs LinkedIn de France. On les a mis dans une maison et on a tourné un genre de vlog où on leur a demandé un petit peu qu'est-ce qu'ils faisaient, pourquoi ils sont bons sur LinkedIn, simplement. Qu'est-ce qu'ils avaient compris de l'algorithme, etc. Donc, ça a créé une super vidéo qui est sur ma chaîne YouTube. On a publié aussi aujourd'hui, au moment où j'enregistre, la masterclass LinkedIn. Donc, ça, c'est Mathieu, le CEO de Linker, et Alix, le Head of Influence de Linker, et moi-même, qui vous livrons pendant une heure tout ce qu'on sait sur comment s'épère sur LinkedIn, quoi, ou comment faire du business avec LinkedIn. Que vous soyez un créateur de contenu qui veut faire une marque personnelle ou une marque qui veut faire des ventes, faire des campagnes d'influence, etc. Donc, la vidéo est pas mal. Et la dernière vidéo qui est sortie, c'est Road to 10 Million, que vous avez peut-être déjà regardé. Voilà. Et à venir, on a pas énormément de vidéos qui sortent cette semaine, aussi parce qu'on est déjà mardi et qu'on a sorti la vidéo de la semaine, donc c'est la vidéo sur la masterclass LinkedIn, mais nous avons demain un petit tournage avec un invité d'Enlève tes chaussures, que je vous avais déjà teasé. C'est un dinosaure qui marche beaucoup, peut-être que vous captez si vous n'êtes pas trop con. Donc voilà, on le reçoit demain, je suis hyper content, ça fait un très bon épisode qui va sortir. Bon, il va falloir attendre un peu que ça sorte, mais ça arrive à point. On passe à la section qui est le cœur de ce podcast, la valeur que je veux vous apporter, c'est la remise de pendule à l'heure. Nous sommes à 30 minutes, les actus sont derrière nous. Jingle non existant, c'est parti. Bon, le premier dont j'ai envie de vous parler, les amis, je voulais parler de l'épreuve discriminante. Alors, ceux qui ont écouté l'épisode sur la prépa HEC savent comment est constituée une épreuve de maths au concours. Il faut que l'épreuve soit très dure. Pourquoi ? Pas juste pour casser les couilles aux candidats, mais parce que si l'épreuve n'est pas dure, elle n'est pas discriminante, comme on dit. Ça veut dire qu'elle ne permet pas de savoir qui est meilleur. Parce que, je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, comme le but d'HEC, c'est de départager les meilleurs, eh bien, si tu as les 500 premiers convaincus, eh bien, tu ne sais pas en fait qui sont les 100 meilleurs. Donc, il faut que tu fasses une épreuve pour que ce soit assez dur pour que parmi ces 500 premiers, bon bah ok, t'en as 200 qu'on 18, 100 qu'on 10, enfin voilà, 200, 250 qu'on 19 et les 50 qu'on 20. Donc du coup, tu la rends plus dure pour qu'elle soit discriminante. Et donc, pourquoi est-ce que je vais vous parler de ça ? C'est parce que il y a beaucoup d'entrepreneurs, de personnes qui bossent, etc., qui ont une réaction à la difficulté, donc à une épreuve souvent qui est discriminante, qui est mauvaise. C'est-à-dire que quand ils ont quelque chose qui ne se passe pas comme prévu, ils s'écroulent, ils disent « Ah, pourquoi ce truc-là m'arrive ? Je ne vais jamais y arriver, merde, les autres, ils n'ont pas ça. » Et ce que je voulais dire, c'est que ce que je voulais vous partager avant tout, c'est un genre de mindset, c'est que votre aventure entrepreneuriale, c'est comme un examen, en fait. S'il n'y a pas de difficulté sur la route, c'est qu'en fait, vous êtes en train de faire le quiz des CE2, quoi. Genre, le truc, vous êtes en train de faire un truc qui n'est pas du tout discriminant, qui ne permet pas de départager les meilleurs, c'est trop facile. Tout le monde s'en fout et il n'y a rien à gagner à la fin. C'est-à-dire, quand tu es en quatrième, il n'y a rien à gagner à avoir 20 au table de multiplication. Quoi. Donc bref, et de manière générale, tout le monde, quelle que soit son aventure, va avoir le même niveau de difficulté, hein, bon, à peu près, hein, sur le long terme. Donc, ce qui est intéressant, c'est juste d'essayer de trouver un petit peu sa zone de tolérance à la difficulté. Et ça dépend des gens, beaucoup, ce truc-là. J'ai remarqué que pour moi, c'était souvent entre 10 et 20% au-dessus de ce que je sais faire. Je pense qu'en moyenne, c'est plutôt... pour la plupart des gens, déjà, ceux qui veulent progresser, être au-dessus de 100%, c'est bien, parce que la plupart des gens, ils font que des choses qu'ils savent déjà faire. Donc, ils sont dans le négatif, c'est-à-dire ils font des tâches qui sont à 90% de ce qu'ils savent faire. Je pense que la majorité des gens qui veulent progresser sont plutôt autour des 4-5% au-dessus de ce qu'ils savent faire. Ils sont dans cette zone, voilà, très très proche du 100%. Et ça, c'est important, en fait, de savoir quelle est ta tolérance à l'inconfort, parce que finalement, c'est ça qui se passe. Parce que sinon, tu vas te gourer et tu risques de ne pas tenir très longtemps. Parce qu'en gros, disons que tu n'as jamais fait de diète, tu vas pas tout couper d'un coup. C'est-à-dire tu vas pas passer de 0 à 100 d'un coup. Parce qu'en gros, si tu ne fais pas attention à ton alimentation et que du jour au lendemain, tu décides de bouffer que du quinoa et de la dinde, c'est comme si tu es 100% en fait, au-dessus de ce que tu sais faire. Donc, tu es à 100 c'est à 200 le truc que tu veux. Donc c'est de la merde, tu vas certainement pas tenir. Et c'est marrant parce que moi j'ai un pote qui est comme ça. J'ai un pote qui a une tolérance... Enfin, en fait j'ai deux potes. Ouais, j'ai deux amis, il y a quoi ? Vous avez deux amis vous ? Ouais, bah moi, j'en ai deux. J'en ai deux, mais qui fonctionnent de façon très différente. J'en ai un qui se donne des, en fait, qui se donne des objectifs sur la comète tout le temps et qui finit toujours par. En fait, d'abord, il se donne des trucs trop grands et après, au fur et à mesure, voilà, il descend et il finit par trouver son équilibre. Mais il perd beaucoup de temps à essayer de ne pas accepter le point de départ, finalement, parce que c'est ça, hein, dont il est question. Le point de départ et de choisir un truc juste un petit, tout petit peu au-dessus de sa zone de confort. Et par contre, j'ai un contre-exemple de ouf. C'est mon pote qui s'appelle David, qui est un mec qui ne peut apprendre que en faisant des choses hyper hardcore. C'est-à-dire que lui, il va rien faire pendant je sais pas combien de mois, et du jour au lendemain, il va décider que, boum, il va couper les glucides. Je dis ça parce qu'il l'a fait. Il a tenu un programme de ouf du jour au lendemain, et c'est comme ça qu'il progresse. Et moi, je me disais toujours que ces gens-là, en fait, ils n'existent pas. Ils tiennent jamais les trucs sur le long terme. Mais ce genre de truc-là, il a tenu 3 mois. Il a tenu 3 mois, et maintenant, il y a eu un avant et un après, hein, sur son physique. Donc ça a bien marché, il a suivi le programme. Donc en fait, sachez juste où est votre zone d'inconfort confortable, entre guillemets, donc la zone de progression, simplement, et essayez de faire pas mal d'actions là-dedans. Et pourquoi est-ce que je voulais vous parler de ça aussi? C'est parce que je trouve que c'est sur ce sujet où le sport, c'est un autre fer advantage, et surtout le running. C'est parce que ça te permet de développer une tolérance à l'effort et à la douleur. Quand tu cours beaucoup, ce que ça te permet de découvrir sur toi-même, c'est que tu es capable de te faire mal, et que tu es prêt même à te faire mal. Et donc, vous savez, je vous ai dit que j'ai couru du coup 16 km ce dimanche-là, pour préparer le Paris-Versailles, et j'étais avec deux personnes qui s'entraînent beaucoup plus que moi, et qui sont en fait des meilleurs coureurs que moi au global. Et moi, mon truc sur les courses, c'est d'accélérer à la fin. Donc, c'est de tout donner pour arriver cramé et tout, et vraiment être fier de moi. Et je voyais sur les BPM, dans les 2 derniers kilomètres, j'étais à 202. Je sais pas s'il y a des runners dans l'auditoire. Et à 202 BPM, t'es dans une souffrance monstre. Et ben, du coup, on courait vite. Et en fait, j'ai fait craquer un pote. Bon, il se trouve qu'il avait quelques kilomètres de plus. Il avait déjà couru avant, donc je prends pas ça comme une victoire à la loyale. Mais je suis sûr et certain que je l'ai fait craquer au mental. En fait, quand j'avais mal, plus j'avais mal, plus j'essayais d'accélérer. Et donc, plus je me faisais mal. Et si j'avais pas fait ça, en fait, il m'aurait suivi. Et ma minute, il m'aurait dépassé. Et donc, j'ai tenu la cadence parce que ça a toujours été ma force. C'est un truc que j'avais un peu oublié d'ailleurs sur les derniers mois de Koudak. J'avais oublié de me faire mal. Moi, ma force a toujours été ma faculté à tolérer la douleur et à me faire très très mal. Et c'est ça qui fait ma force. Et c'est pour ça que je pense que je suis pas trop mauvais quand c'est le chaos. Quand faut se faire très mal, quand faut travailler beaucoup, etc. Quand on est discriminé sur ce point-là, pour revenir au sujet quand même, hein, de la pendule. On remet à l'heure, vous avez compris, hein, c'est ça le titre de la section. Voilà. Et je vous ai noté une petite citation en clôture de ce point-là, que j'avais trouvé cool, je crois que je vous l'avais déjà donné peut-être dans un podcast précédent, c'est « We train the body so it doesn't disobey the mind ». Nous entraînons le corps pour qu'il ne désobéisse pas, pardon, à l'esprit. Et donc la leçon de ce point-là, sur l'épreuve discriminante, c'est que, bon, imaginez qu'à chaque difficulté que vous rencontrez, donc chaque fois qu'il y a quelque chose qui discrimine finalement, il y a 50% des gens dans votre situation qui arrêtent. Donc le but, c'est juste de passer l'étape et d'être toujours là après la difficulté. Et ça me fait penser à une façon dont mon père m'expliquait le jeu de tennis. Parce que moi, je frappais comme un bœuf à chaque fois. En fait, au tennis, j'ai grandi très très vite. Mais je n'ai pas eu la vivacité qui venait avec. En fait, j'ai perdu en rapidité, etc. J'étais un grand dadais. En fait, je faisais 1m90 pour 67 kilos. Je ne sais pas si vous imaginez, aujourd'hui, je fais 85. J'étais vraiment une ficelle. Et il m'avait dit à un moment, et du coup, j'essayais d'abréger les points, en fait. Je frappais fort et je servais fort pour pas qu'on m'emmerde. Et du coup, je faisais plein de fautes. Il m'a dit, en fait, le tennis, ce que je voulais vous partager, parce que je vais vous donner la leçon de mon père, du coup, la seconde façon de voir le tennis, parce qu'il y en a deux. Il a dit, en fait, soit le sport de tennis, c'est celui qui gagne le point, il gagne le match, soit c'est le dernier qui renvoie la balle. Eh bien, une épreuve discriminante, c'est le dernier debout qui gagne. C'est ça. Donc, essayez juste d'être debout derrière la difficulté. Et rappelez-vous vraiment qu'à chaque fois qu'il y a une merde, un truc qui ne se passe pas comme prévu, vous perdez un client, perdez un appel d'offres, dites-vous que c'est un challenge et que dans votre situation, il y a 50% qui se lamentent, qui s'écroulent. Et c'est l'occasion de montrer que vous êtes sharp, que vous savez tolérer la douleur et que vous savez avancer. Et vous regardez les concurrents derrière vous dans le rétro parce que vous avancez quand ils s'écroulent. Qu'à la fin, il reste que les plus forts. Voilà pour la première, c'était l'épreuve discriminante. La seconde chose, c'est la contrainte qui stimule l'efficacité. Alors, on va en parler de running. Donc j'ai commencé moi à être assidu au running quand je me suis inscrit à une course. Je me suis inscrit à 10 km, j'avais jamais couru. Je me suis dit, vas-y, je me chauffe, ça part. Et donc il y a une technique en fait quand tu veux commencer à accomplir des trucs qui te semblent assez ambitieux, c'est pour aller plus vite que les autres, c'est t'auto-imposer une contrainte. Et donc une contrainte c'est quoi? Globalement c'est une deadline avec une sanction et ou une récompense. Donc là pour moi, ce que j'ai fait pour me chauffer à courir, c'est que je me suis inscrit à un semi-marathon. J'avais jamais couru, hein. Au démarrage ça devait être semi-no-prep, hein, pour nos préparations. Et ce truc-là a stimulé une énergie en moi, de l'annoncer en public en plus, de me dire, si je fail ce truc-là, quelle honte. Et c'est ça ma punition. Ma punition, c'est la honte publique. Et la récompense, c'est la fierté. Pour moi, c'est largement assez, mais j'aurais pu me mettre un truc, je sais pas, faire un week-end avec mes potes, aller bouffer dans un resto, etc. Selon whatever, ce qui vous motive. Moi, la fierté, c'est assez. Et donc, en fait, ce qui est très très dur avec le running, c'est de s'entraîner. Hein. Mais par contre, s'inscrire à une course, c'est très facile. Et ça, il y a un avant et un après quand tu t'inscris à une course. C'est pour ça que la première étape pour courir un marathon, c'est s'inscrire à un marathon. Et probablement le jour où j'aurai envie de courir un marathon, on n'est pas tout de suite, et ben je ferai comme ça. Je m'inscrirai avant d'avoir commencé à m'entraîner. Et ça me fait penser à Ulysse. Je ne sais pas si vous voyez donc, dans l'Odyssée d'Homère, quand il est sur son bateau et qu'il y a les sirènes qui viennent lui faire des chants là, pour qu'il se jette à l'eau et qu'il se noie. Et pour combattre ça, il s'enchaîne au mât du bateau. Et ben les sirènes, c'est la flemme en fait. C'est les distractions, c'est tous les trucs qui vont faire que potentiellement sur les 3 mois de préparation, tu ne vas pas t'entraîner. Et bien, s'inscrire à un semi ou se mettre une contrainte auto-imposée, c'est s'enchaîner au mât, se ligoter au mât. Et en fait, pourquoi est-ce que c'est stylé ce truc-là? C'est parce que ça te permet de passer outre les distractions, outre les découragements. Et parce qu'en fait, voilà, il y a 99% des gens qui faillent ce qu'ils essaient de faire. Enfin, j'ai du mal à exprimer, en fait, sur ce point-là. Parce que vous voyez bien que le niveau moyen des gens, il est nul à chier. Il est nul à chier. La plupart des gens, quand ils essaient de faire un truc, ils ratent. Et il suffit de regarder la fréquentation d'une salle de sport à partir du premier de l'an. Très simple. 100 personnes le premier jour, 90 le deuxième, 85 le troisième, et vous revenez 15 jours plus tard, il n'y a plus personne. Pourquoi? Parce que 30 balles par mois pour payer Basic Fit ou ça pue le cul quand tu vas dans les vestiaires, ben c'est pas assez comme commitment. C'est pour ça qu'il faut aller dans des salles chères, payer cher, parlez-en en public, engagez-vous, et la première étape d'accepter de vouloir quelque chose de grand et de le délivrer, c'est de s'enchaîner au mât. Ligotez-vous, les potes. Et donc, vous devez commit sur un truc facile comme l'inscription à une course. Et après, espérez que vous allez vous respecter vous-même. Parce que forcément, si vous n'avez pas de respect pour vous-même, ça ne marche pas. Et auquel cas, bon, vous avez un autre problème. Hein. Là, il s'agit de le regagner via des petites victoires simples du quotidien, comme par exemple, j'ai dit que j'allais refaire mon lit demain. Je le refais. Ah, je suis digne de confiance. Je vous dis ça parce que moi, il y a des moments où je suis tombé très très bas, hein, sur la confiance en ce que j'étais capable de faire. Et ça commence par des petits trucs comme ça. Mais si vous avez un peu de respect pour vous-même, normalement, voilà, vous faites un truc et quand vous dites que vous l'avez fait, quand vous dites que vous allez le faire, putain, il est vraiment tard, hein, vous le faites. Voilà. Et donc, il y a pas mal de performances à aller chercher simplement en ayant un petit peu plus de courage que les autres et en assumant ce qu'on veut faire. Donc, c'est dans ce cadre-là aussi qu'on a déclaré le Road to 10 Million de novembre. Parce que ça nous file. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, il y a 15 mois pour faire x2,5. C'est monstrueux, c'est ridicule. Mais j'ai quand même une petite idée de comment je pourrais faire. Donc, pour ça, c'est très lié à une mentalité que j'aime beaucoup, qui est très à l'américaine, mais ça s'appelle le pistol to your head. Donc, ou gun to your head. Donc, qui consiste à, dans une situation où tu ne trouves pas de solution, s'imaginer qu'il y a quelqu'un qui pointe un flingue sur toi ou sur une personne que tu aimes bien, genre ta daronne, et qui te dit si tu ne trouves pas de solution, je tire. Et là, s'imaginer les solutions qu'on trouverait dans cette situation-là. Qu'est-ce qu'on ferait? Là, vous allez avoir des trucs très évidents, vous allez vous rendre compte qu'en fait, tête de crap, tout est extrêmement simple. Et ça, c'est un truc qui marchait bien. J'avais entendu Eddie Hall, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, c'est celui qui a passé, je crois que c'était le premier à soulever 500 kg au deadlift. Et pour aller chercher de la performance supplémentaire pour soulever ces poids-là, ils s'imaginent souvent que, je sais pas, il y a leur fille qui est coincée sous une voiture. Donc lui disait qu'il avait ce genre de procédé-là aussi, même il voulait même pas en parler en fait du truc, tellement c'était sombre, le truc qu'il avait dans la tête. Donc essayez d'aller trouver ces petits trucs-là. Imaginez-vous que vous êtes en danger. jouez avec votre tête. Ça marche assez bien. Voilà, donc la leçon de ce point-là, sur la contrainte stimule l'efficacité, c'est imposez-vous des contraintes, vous-même. N'attendez pas que quelqu'un le fasse pour vous. Parce que sinon, dans tous les cas, les gens vont le faire, hein, ça va être un patron, etc. Si vous... Enfin, toute la discipline que vous n'avez pas envers vous-même, c'est quelqu'un d'autre qui va vous l'imposer, mais cette fois-ci sous forme de règles. Donc, mettez-vous dos au mur, ayez le courage de le faire, et ayez le courage de le faire précisément parce que personne n'est capable de le faire, et ça ne coûte pas grand-chose, honnêtement. Voilà pour le point numéro 2. Cette pendule est remise à l'heure. La troisième. Faire en sorte que les gens attendent plus d'eux-mêmes. Cette petite réflexion me vient d'une conférence qui a été donnée par Arsène Wenger et qui m'est revenue en tête récemment sans que je l'ai re-regardée, et dans lequel il expliquait comment est-ce que tu fais passer un projet d'équipe de l'entraîneur jusqu'à l'équipe. Et donc il dit qu'un projet d'équipe, il devient réel quand les joueurs entre eux commencent à se tenir responsables du projet de l'équipe. Donc on dit, on veut gagner la Champions League, mais tu as ton défenseur qui ne vient pas à l'entraînement, ou ton attaquant qui ne revient pas défendre. Et bien au lieu que ce soit le coach qui l'engueule, c'est un joueur qui va l'engueuler. Quand vous avez ça, vous avez créé une culture. Et donc, je ne sais plus si c'était la semaine dernière ou celle d'avant, je vous parlais du CEO et de son devoir d'être le garant des standards. Eh bien, j'ai un peu avancé sur cette réflexion. Je pense que ça va plus loin que ça. Je pense qu'un bon CEO, c'est quelqu'un qui inspire les gens à attendre plus d'eux-mêmes. Et honnêtement, bah, c'est pour ça que je me bute en sport. C'est parce que je veux lead par l'exemple. Je veux qu'il n'y ait personne qui me dise « je suis plus engagé que toi ». Dans Koudak, évidemment. Donc, je veux être toujours le top dog là-dessus. C'est-à-dire que je dois montrer l'exemple. Mais aussi à titre personnel, montrer, écoute, regarde, c'est possible. Je le fais, ce truc-là, j'arrive à faire du sport, j'arrive à avoir une vie sociale, j'arrive à faire tous ces trucs, et je veux que ce soit inspirant pour les gens. Et donc en fait, cette leçon-là, c'est surtout sur celle de, bah, évidemment, de lead par l'exemple, et ça fait beaucoup écho sur comment est-ce qu'on a craqué hein, ce sujet sales, là, les roadmaps. Et on l'a craqué très simplement quand je suis retourné sur le terrain. Je suis allé regarder concrètement qu'est-ce qui se passait mal. Qu'est-ce qui se passait mal dans nos roadmaps. Et j'en ai fait moi-même. Je suis descendu en call, je fais OK, bon, je suis allé voir le client, poser des questions, boum boum, quand je faisais à l'ancienne, truc que j'avais totalement délégué hein, et que j'ai refusé de faire pendant longtemps. Je suis retourné, je fais une roadmap, toc tac, bon, toi tu fais ça, etc. On présente le truc, ça marche pas, boum. Et toute l'équipe a vu que j'étais prêt à foutre les mains dans le cambouis. Et ce truc-là a un effet qui ruisselle. Comment est-ce qu'on dit quand vous jetez un caillou dans une mare et ça fait une onde autour? Bah, c'est des ripples, en fait, en anglais. Parce que ça montre que c'est possible et ça inspire toute l'équipe. C'est pour ça qu'en fait, c'est une très, très grande responsabilité hein, d'être CEO. Parce que quand tu as cette fonction-là, tu n'as pas le droit de fioter, en fait. Sinon, tu deviens une merde, très simplement, qui pilote de l'arrière. Vous voyez le gars qui fouette ses chevaux, là, pour qu'ils avancent, au lieu d'être avec les chevaux en train de tirer. Donc, il faut toujours montrer par l'exemple. Et ça ne veut pas dire que vous devez faire toutes les tâches que vous déléguez aux gens. Mais il faut être prêt à montrer que vous êtes commit, que vous avez commit dans le business. Et donc moi, j'ai commit évidemment à une des choses les plus précieuses, j'ai commit mon image sur ce truc-là, et je pense que c'est pour ça que ça tourne bien dans l'équipe, qu'il y a du respect envers ce que fait le management et ce que je fais. C'est parce que, voilà, on rigole pas, tu vois, on n'est pas là pour se cacher. J'ai tout commit, moi j'ai commit toute ma vie, toute ma marque personnelle. Donc c'est aussi pour ça que personne ne peut venir me dire... je suis plus impliqué que toi. Parce que voilà, je les invite à commit autant que moi, et je m'adresse surtout aux personnes des autres boîtes. Vous savez, il y a plein d'autres boîtes qui disent « Ah, j'aimerais bien grossir. » c'est quoi la méthode pour grossir plus vite, etc. Donc je leur parle de marque personnelle, etc. Ils ne sont pas prêts à le faire. C'est-à-dire, moi, j'ai commit ma réputation demain, il arrive une merde à Koudak, je suis blacklisté pour au moins quelques temps. Il m'arrive une merde, j'ai tout engagé dedans. Donc c'est normal que je reçoive des fruits. Voilà, donc, qu'est-ce que je voulais vous dire derrière? Je reprends un petit peu ma trame de laquelle je m'étais éloigné. Comment est-ce qu'on fait maintenant pour élever ces standards que les gens ont envers eux-mêmes? Je vous ai mis deux choses. D'abord, pour ceux qui ont déjà de l'ambition, votre travail, c'est de montrer, et ça marche très bien ça, une incohérence entre les résultats qu'ils attendent et les moyens qu'ils mettent en place. Ça veut dire, ok, écoute, tu veux devenir manager, etc. Que ferait un manager? Ok, est-ce que tu es irréprochable sur la gestion? Bon, la première chose peut-être qui serait irréprochable sur la gestion de tous ses clients, parce que tu es irréprochable sur tout. Bon, bah écoute, moi je peux te citer tel point, c'est lequel il faut que tu t'améliores. Boum, ensuite tu fais un plan, tac. Et tu montres une incohérence entre les deux. Ça marche très bien. Numéro 2, pour ceux qui sont un peu plus perdus, c'est toi qui dois leur expliquer ce qu'ils peuvent devenir. Et c'est là où le CEO a souvent une autre qualité qu'on lui prête beaucoup dans la Startup Nation, c'est celui de vision. Et la vision, ce n'est pas juste sur la boîte, c'est la vision sur les gens. Donc, leur expliquer qu'ils peuvent attendre des choses qu'ils eux-mêmes n'attendaient pas d'eux-mêmes. Et en fait, simplement, les gens, ils résument ça souvent dans une phrase, c'est aider à voir plus grand, élever le niveau d'ambition, etc. Ça, c'est aussi le devoir d'un CEO. Donc, leur expliquer, ah, tiens, mais ok, voilà, tu t'occupes de, je sais pas, tu montes des vidéos, par exemple, chez Kodak, mais pourquoi tu pourrais pas être le chef d'une équipe vidéo ? Et en fait, ça se trouve, la personne, parfois, en face de toi, elle n'y a même pas pensé. Elle se disait qu'elle n'était pas capable. Bah, toi, ton travail, c'est de lui expliquer qu'elle est capable et de lui montrer comment faire. Parce qu'évidemment, tu ne peux pas lui dire, ah, pourquoi tu ne deviendrais pas ça ? Bah, deviens-le. Ou alors, tu reviens jamais. Ah, tu pourrais devenir ça, mais pas chez moi. Donc non, il faut mettre le plan entre les deux. Bah écoute, il faut que tu déjà sois irréprochable sur ton travail actuel, que tu montres que tu es capable de manager peut-être un alternant d'abord, etc. Bon bref, je bullshit là, mais vous avez compris le truc. Donc la leçon, c'est quoi ? Ne cherchez pas à imposer une contrainte extérieure aux gens, essayez plutôt de faire en sorte que eux-mêmes ils se l'imposent. Voilà, et faites adopter vos idées par les gens, pour qu'ils en deviennent les ambassadeurs. Quatrième pendule à remettre à l'heure, n'ayez pas peur d'être compétitif. J'ai longtemps eu cette croyance, particulièrement qu'en Kodak, très corrélé au moment où Kodak allait pas très bien, hein, dis donc, hein, comme par hasard, que tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout le monde a un potentiel, en fait non, personne n'est meilleur que tout le monde, chacun a un trésor en soi, etc. Bon, en fait non, non, il y a vraiment des gens, c'est des merdes. Il y a des gens qui bouffent de la merde, qui sont en mauvaise santé, il y a des gens qui travaillent pas, des gens qui font pas sport, qui se respectent pas. Et bon, tout ça veut dire qu'en fait, il y a sur certains domaines, sur tous les domaines, d'ailleurs en fait, sur chacun des domaines même, une hiérarchie entre les personnes et leurs compétences dans ce domaine donné. Là où c'est plus compliqué, c'est de trouver des hiérarchies entre les gens. Ça, pour le coup, c'est tellement multidimensionnel que ça me semble plus compliqué. Et tout ce qu'on peut faire, c'est de se dire, bon, bah écoute, mon objectif, c'est d'être le meilleur entrepreneur de Paris, j'en sais rien. Et t'as quelqu'un qui vient te voir et qui... Et donc, pour ça, je sais que je vais devoir travailler comme un chien. Bah, t'as quelqu'un qui vient te voir et qui n'est pas le meilleur entrepreneur de Paris et qui travaille pas bien. Bon, bah écoute, tu te dis, a priori, j'ai pas forcément envie de prendre cette personne-là comme exemple. Parce que, selon mes critères de ce que j'ai envie de faire, c'est pas quelqu'un qui m'inspire. Et donc, en fait, encore heureux hein, qu'il y a des gens qui sont meilleurs que d'autres, sinon ça voudrait dire que le travail ne paye pas, hein, très simplement. En gros, il n'y a pas d'upgrade, que tout le monde mérite, sans travail, d'avoir les fruits de ce que fait le meilleur. Malheureusement, qu'on le veuille ou non, hein, c'est pas très populaire de dire ça, mais il y a un classement dans tout. Hein. Les gens détestent entendre ce truc-là, il y a une boîte qui a plus de chiffre d'affaires que l'autre, il y a une personne qui a plus de compétences qu'une autre, c'est toujours comme ça, et le meilleur moyen que ça finisse en catastrophe, c'est de ne pas l'accepter, et d'essayer de faire des... parce que je vous laisse un jour essayer de promouvoir une personne moins bonne qu'une autre, sous prétexte par exemple qu'elle est là depuis longtemps, et regardez à quel point vous créez une boîte de merde, avec une mentalité de merde. Et bon, alors c'est pas parce qu'il y a un classement, par contre, qu'il faut passer son temps à arriver dessus. Hein. Il y a un, je sais plus quel coach qui disait, le score takes care of itself, donc le score s'occupe de lui-même. Voilà, vous ne créez pas beaucoup de performances en regardant le score et en espérant qu'il grossisse. Oh, le classement, oh, lui il est meilleur que moi, lui il est meilleur que moi, etc. On s'en fout en fait. Chez Kodak, on dit beaucoup, on veut la couronne, pas la tête sur laquelle il y a la couronne. Donc ça veut dire qu'on s'en fout de buter le premier, de qui est devant nous, etc. On va pas se focus là-dessus, on va se concentrer sur être meilleur que nous-mêmes la veille. Et en fait, c'est ça faire la compétition. C'est faire la compétition avec soi-même, mais aussi faire la compétition avec les autres. Accepter que parfois on a envie de battre des gens. Ça peut être nous-mêmes ou ça peut être les autres. Ça dépend des motivations. Mais il y a certains pour lesquels ça révèle une puissance insoupçonnée. Et moi, c'est mon cas, en fait. Dès qu'on me dit que tu vas faire la compétition avec quelqu'un, ça me réveille. Je ne sais pas si c'est le sport depuis jeune, mais il y a des gens, c'est des compétiteurs. Et les sportifs, c'est ça. Mbappé, quand il perd, Mbappé, mon amour, je le kiffe tellement, ce mec. Quand il perd, il a le seum, il est dégoûté parce qu'il veut gagner. C'est un compétiteur et c'est normal parce que c'est ça qui est nécessaire pour atteindre le top du top. Je me mets au défi de trouver une personne qui a atteint le top du top de son sport en compétition, évidemment, et qui n'avait pas un énorme esprit compétitif, quitte à parfois être mauvais joueur. Parce qu'en fait, quand, voilà, il faut accepter. Bon, bref, moi, j'aime pas perdre. J'aime pas perdre et j'aime pas beaucoup parce que ces derniers mois, j'ai beaucoup perdu. Une boîte qui grossissait pas aussi vite que je voulais. Pour moi, c'est une défaite à chaque fois. Donc à la fin, quand tu fais que perdre, soit ton cerveau il accepte que t'es une merde, soit il se révolte. Et voilà, tu peux qu'en fait classer les gens dans ces deux catégories-là. c'est les gens qui vont commencer à trouver des excuses en mode « Non, mais écoute, tu sais ce qui est important, c'est l'équilibre, etc. » Mais en fait, pourquoi tu taffes comme un chien alors? Pourquoi t'as taffé comme un chien? J'ai l'impression que t'es en train de te trouver une excuse parce que t'as pas réussi. Oui, mais ce qui est important, c'est l'expérience que j'ai acquise. Oui, mais pourquoi tu peux... C'est très bien cette expérience, mais t'as aussi le droit de dire que tu voulais gagner, mais t'as perdu. On perd tous. Et donc, n'ayez pas peur d'être compétitif parce que pour accepter, pour gagner, en fait, il faut pouvoir perdre. Il faut accepter de pouvoir perdre. Et si, enfin, les grosses merdes n'acceptent pas qu'elles peuvent perdre. C'est trop dur pour leur ego parce qu'il est si fragile. Donc, la leçon numéro 4, c'est n'ayez pas peur de l'énergie de compétition, n'ayez pas peur d'être compétitif. J'en ai deux dernières. Ensuite, on passe au best de la semaine. Donc, le meilleur contenu de la semaine. Numéro 5, je voulais vous parler de la symétrie upside-downside. Alors, je vais vous expliquer comment est-ce que ça marche une cote sportive, donc pour un pari sportif, chez un bookmaker. Pour gagner de l'argent en pari sportif, c'est très simple, il faut être capable de faire une seule chose, c'est mieux prévoir la cote d'un match que le bookmaker. Une cote, comment c'est calculé? C'est le pourcentage de victoire à l'inverse. Donc si tu as 50% de chance de gagner, enfin pari à 50% de chance de gagner, pardon, tu fais 1 divisé par 50%, ça fait 2, donc ça fait une cote à 2, et le bookmaker ajoute ta petite marge. Donc, en fait, il va te donner une cote à 1,93. Et c'est comme ça qu'ils gagnent de la thune sur le long terme. Donc, toi, si tu veux gagner de la thune, il faut être capable de dire, bon, ok, là, Winamax, il me propose une cote de 2. En vérité, je pense que la cote, elle devrait être à 1,7. Donc, ça veut dire qu'il y a plus de chances de gagner que ce qu'estime Winamax. Là, je fais ce qui s'appelle un value bet. Le problème de ça... Donc là, je vais vous expliquer un second concept qui est très simple, qui s'appelle l'aversion à la perte. C'est qu'en gros, ça fait plus mal à quelqu'un de perdre 10 euros que ça ne fait de bien d'en gagner 10. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc en gros, à une somme égale, gagnée ou perdue, les gens ont très 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 peur de perdre, beaucoup plus que de gagner. Donc, pourquoi est-ce que je vais vous relier ces deux points-là pour parler de la symétrie upside-downside? C'est parce que sur l'entrepreneuriat, les gens surestiment le risque. Et donc, ils évaluent très mal la cote associée à la victoire entrepreneuriale. Ils disent que c'est une cote à 10 de réussir une boîte ou de réussir à gagner de l'argent en indépendant, en freelance, j'en sais rien. Alors qu'en vérité, c'est plutôt une cote à, j'en sais rien, la cote doit être à 6, 5, etc. Bref, c'est quand même des grosses, grosses misconceptions qui se font. Et donc, le fait que tout le monde surestime les probabilités, d'échec liés à l'entrepreneuriat fait que si toi, tu as une aversion à la perte qui est plus faible que les autres, tu peux faire énormément de value bet. Si tu sais que les gens ont ce biais-là, ils ont extrêmement peur de perdre, et donc de mettre en danger leur CDI parfois, ou leurs conditions un peu confortables. Rien qu'en te lançant tout court, sans être bon, et en mettant en place ton activité, tu es sur un value bet. C'est-à-dire que tu fais un truc que la plupart des gens ne sont pas prêts à faire. Et il y a une grosse différence entre vouloir monter une grosse entreprise ou alors une énorme agence et faire des trucs énormes et juste gagner de l'argent sur Internet, faire freelance. Là-dessus, le niveau de risque, il est plus faible. Ça se fait bien. Après, tout le monde n'en a pas envie, hein, je ne dis pas ça. Et les gens ont des objectifs différents. Mais si vraiment ton objectif, c'est ça, et que tu as peur du risque, dis-toi que tu le surestimes probablement parce que tu as l'aversion à la perte. Tu as très peur de, si ça fail, oh putain, je vais m'humilier en public, j'aurais essayé, je serais une grosse merde, je vais devoir retrouver un taf tout penaud, etc. Donc, où est-ce que j'en étais? Merde, j'ai perdu le fil de ce que je suis en train de vous raconter. Putain, faut... j'écris des trucs, faut vraiment que j'arrive à les suivre. Ok, ça donne une grosse marge d'erreur dans laquelle tu peux t'épanouir si tu fais juste preuve d'un peu de courage, un peu plus de courage que les autres. Donc, dis bonjour à une personne quand tu rentres à la salle. Prends la parole en réunion pour dire ce que tu penses. Tout ça, c'est des petits trucs que la plupart des gens ne font pas parce qu'ils manquent de courage et qui sont d'énormes value bets pour toi sur lesquels le risque est surestimé. Quel est le risque? Tu vas te faire humilier? Tu vas te faire recaler? En fait, le risque, il n'est pas très grave. Tu vas continuer à vivre ta vie. Il n'y a rien qui va changer. Hein. Tu fails. Les gens, ils sont tous dans leur petite vie. Ils n'en ont rien à foutre. Hein. Ils auront oublié dans 2 heures. Donc, le downside est très, très faible, mais l'upside est très, très haut de prendre la parole en réunion. Tu peux faire passer une idée. Tu peux assumer ton statut dans une boîte, peut-être te mettre bien avec le patron, montrer que tu es intelligent, quoi, que tu es motivé simplement. Mais tout ça, tous ces trucs-là, ça nécessite une seule chose, c'est du courage. En fait, quand on y réfléchit, moi, le fait qu'aujourd'hui j'ai 50 employés, c'est le résultat juste d'un mini-courage que j'ai eu il y a 3 ans et demi de me lancer et qui a compound avec le temps. qui a ramené une autre personne. Et là, au démarrage, j'avais 100% d'un truc qui valait rien. Et maintenant, j'ai un gros pourcentage. Je ne connais même pas exactement derrière, mais pardon, Kodak, la honte. Il y a trop de dilution, je fais rentrer trop de personnes. Mais bon, j'ai toujours une grosse partie de cette entreprise, largement majoritaire, bah, d'un plus gros gâteau. Parce que tout a compound, ce truc-là a compound. Donc la leçon de ce truc-là sur la symétrie upside-downside, c'est que les gens sont lâches. Voilà, c'est ça. Les gens sont lâches. Donc bref, un petit peu de courage peut t'amener pas mal de trucs positifs. Je vais terminer sur la dernière pendule à remettre à l'heure, qui va être faite de façon très courte, pour pas que cet épisode soit un calvaire de 4 heures. J'ai mis, il y a du monde au départ et à l'arrivée. Ça me faisait penser à mon pote Jordan, là, qui se met son petit challenge From Chouf to Semi. Je vous invite à aller suivre sur Instagram, c'est J-U-J-Y-O-U. Je le partage souvent en story, vous verrez. Vous verrez, avec une voix virile, pardon. Je bois de l'eau là. Il est trop tard, il est 23h45. Moi, à ce temps-là, je fais dodo hein, dans ma nouvelle routine. À 22h30. Hein. 22h30, je suis au lit. 23h, je dors. 6h30, réveil. Demain, je vais courir. Demain, c'est séance endurance. Ah non, c'est pas endurance fondamentale, c'est vitesse. Séance vitesse. Donc, fractionné. Pour faire simple. Où est-ce que j'en étais? Il y a du monde au départ et du monde à l'arrivée. Donc, mon pote Jordan s'est donné un challenge, c'est de courir un semi-marathon. Sachant que Jordan, il boit beaucoup de chouf, et donc il a appelé ça le challenge chouf tout semi. Et son premier challenge, c'était de courir un 10K. Et quand il a lancé son challenge, il a commencé à faire des reels pour documenter. Il y avait plein de monde qui était trop chaud, etc. Et évidemment, tu étais trop motivé, tu vois, quand tu pars, il y a du monde. Comme quand tu te lances, etc., les gens, ils se font, allez, c'est bien, tu vis ta passion, etc. Mais pendant le trajet, donc déjà, quand tu commences à galérer, il n'y a plus personne. Et ensuite, quand ça commence à marcher ton truc, les gens commencent à avoir le seum. Il n'y a plus grand monde. Et par contre, quand tu arrives et que tu délivres une grosse victoire, aux yeux des gens, souvent une victoire, ça va être quoi ça, pour, aux yeux des gens, c'est que tu passes dans un média. Oh putain, Théo, il est sur challenge. Waouh, bravo, j'ai toujours cru en toi, etc. Donc, il n'y a personne au milieu. Il y a du monde au départ, il y a du monde à l'arrivée. Et si vous avez du monde tout au long de votre aventure, c'est que vous êtes toujours au départ. Donc, vous n'avez jamais lancé l'aventure. Voilà. Donc c'est normal hein, d'être tout seul hein, dans ce genre de choses-là. Ça se saurait, s'il y avait du monde, tout le monde le ferait. Passons à la rubrique numéro 4, le meilleur de la semaine. Ce que j'ai lu sur internet et que j'ai trouvé intéressant et qu'il me semblait utile de vous partager. J'ai deux choses. J'ai un tweet d'abord d'Alex Hormozy qui m'a dit, qui ne m'a pas du tout dit à moi, qui a écrit, qui nous dit à nous tous, « How to be a victim ?» Comment être une victime ? Il dit « Lower expectations of self ». Raise expectations of others. Donc, baisse les standards que tu as pour toi-même et augmente les standards que tu as pour les autres. Et c'est exactement ce que je vous décrivais avec le CEO qui fouette de derrière. Parce que quand tu baisses... Alors, en gros, le lead by example, c'est l'inverse. C'est-à-dire, t'augmentes... C'est pas l'inverse, c'est pas totalement l'inverse. C'est t'augmentes les attentes de toi-même, tu fais en sorte qu'elles soient toujours plus hautes que les attentes que tu as des autres. Et on pourrait compléter le tweet d'Alex Hormozy qui, évidemment, n'écoute pas toutes tes millions, sinon il saurait... et augmente les attentes que les gens ont d'eux-mêmes. Voilà. Donc je suis content que le monsieur soit d'accord avec moi. Le monsieur avec la grosse barbe et les gros muscles. Et dernière chose, dans le meilleur de la semaine, c'est quelque chose que j'ai entendu dans un podcast qui s'appelle Modern Wisdom, il me semble. C'était un chercheur, il me semble, qui faisait la différence entre ce qui était un effort type feedback et un intelligence type feedback. Peut-être que c'était Huberman. Donc en gros, c'est comment est-ce que tu dois féliciter une personne pour que ça stimule son efficacité, ses résultats, que ça la rende heureuse, bref, etc. Donc il y a deux façons de faire un feedback. Prenons un enfant qui a eu une bonne note à un DST, qui a eu 20 sur 20. Tu peux dire deux choses. Donc, t'as eu 20 sur 20 au DST de maths, putain, t'es grave en matheux, t'es trop talentueux. Ou alors tu peux dire, bravo, t'as bien travaillé. Eh bien, il explique que ceux à qui on fait des feedbacks sur l'intelligence, donc t'es talentueux, etc., t'es intelligent, eh bien, en fait, on ne leur rend pas du tout un service. Ça produit l'effet inverse. C'est des gens qui, déjà, ça n'améliore pas la productivité, et même ça produit l'effet inverse. Ça veut dire que quand ils rencontrent des difficultés, ces gens, ils se disent « Mais non, mais je suis intelligent et j'arrive pas », et ils abandonnent. Et ils échouent beaucoup plus, ces gens-là. J'étais choqué en apprenant ça. Parce que j'ai toujours pour habitude, moi, de complimenter les gens sur leur qualité. T'es ça, etc. Et je me disais que pour éduquer un enfant, c'était super, tu vois, de le féliciter en mode. Moi, il y a beaucoup de traits d'identité que j'ai récupérés parce que, je sais pas, mes parents m'ont beaucoup félicité dessus. Genre, j'en ai même pas qui me viennent en tête. Bon, des trucs très sympas, hein, tu vois, t'es gentil. La pire qualité du monde. Ouais. Non, mais il y a plein de choses évidemment qui me viennent pas en tête parce que j'ai un micro dans les mains et qu'évidemment c'est comme pendant un match de basket, tu joues beaucoup moins bien qu'en entraînement. J'en avais plein à vous balancer, j'avais écrit, mais voilà, vous comprenez. Et donc à la place, ce qu'il faut faire, c'est récompenser l'effort. Et donc évidemment, vous voyez très vite le parallèle avec le management. Si vous voulez féliciter quelqu'un, félicitez-le plutôt d'avoir bien travaillé, d'avoir fait ce qu'il a dit qu'il allait faire. Et ça goes a long way, comme ils disent les Ricains. Donc ça fait un grand effet. C'est pour ça qu'il ne faut pas traduire les trucs en français. On passe à la FAQ. Je sors mon téléphone, parce que ce sont des questions que, comme d'habitude, je n'ai pas préparées. D'ailleurs, allez me suivre sur atheo.le.lyon, et après, on va pouvoir tranquillement clore ce podcast. Mais d'abord, j'ai quand même pas mal de questions auxquelles il faut que je réponde. Je ne prendrai que les intéressantes. Je n'ai pas tout lu. Ouais. Ok, alors, est-ce que le GP Explorer t'a donné des nouvelles idées de contenu de demande cacact? Je pense que ça m'a pas donné directement de nouvelles idées de contenu parce que j'ai pas envie de faire exactement comme ces personnes-là. Et moi, j'ai jamais vocation à être un créateur de contenu de leur ampleur. J'ai pas envie de ça. Il y a peu de chances que ça se produise. Mais ça m'a donné la folie des grandeurs. Je me suis dit que j'aimerais bien créer un genre d'événement un peu similaire, mais pour tous les aspirants entrepreneurs, les entrepreneurs, etc. Une grande réunion que j'aurais pu faire grâce à ma communauté. Et voilà, pas exactement de la même façon. Même si j'aime beaucoup la F4 aussi. C'est très marrant d'ailleurs, j'ai fait de la F4 une semaine avant le GP Explorer, ce qui m'a permis de beaucoup plus apprécier et d'ailleurs d'être assez surpris par le fait que je trouve qu'ils conduisaient assez bien. C'était assez propre et je pense qu'ils ont été très bien préparés. Pourquoi as-tu décidé de lancer un business dans le service, nous demande Domi THG. Alors Domi, j'ai un peu construit un business dans le service malgré moi. J'ai beaucoup aimé la partie création de contenu qui est venue avec dès le démarrage, parce que moi j'ai construit quasiment le business de service en même temps que j'ai commencé à pousser du contenu. Et donc, j'ai fini malgré moi dans un business qui n'était pas forcément celui dans lequel je me serais lancé au démarrage. Et donc, je n'ai pas eu en fait une porte avec soit je lance une startup, soit je lance ça, soit je lance ça. J'ai lancé le truc qui a bien fonctionné. J'ai fait du freelance et je l'ai scale. Et voilà. Donc, je ne vais pas te faire genre, j'avais une vision depuis le démarrage. Ibrahim Gayedge qui me dit « Alors, le déficit calorique, chef, merci de prendre des nouvelles, ça fait plaisir. Écoute, j'en suis à 22 000 calories brûlées depuis 6 semaines. C'est pas mal quand même de déficit. » C'est très cool. Moi, je suis content en tout cas. Pour le début de l'agence, tu conseilles de travailler avec des freelances ou des salariés? Je te conseille de travailler avec des freelances. Non, mais en fait, bon, j'applique ça évidemment à mon cas Kodak. C'est très compliqué, hein, les questions comme ça, générales, parce que chaque question, il faut bien comprendre que c'est une optimisation sous contrainte. Ça veut dire, que faut-il faire? Et ce que disent jamais les gens, c'est avec la situation caractéristique ABCDEFG. Donc, pour le début de l'agence, tu conseilles de travailler avec des freelances. De quelle agence tu parles? Quel type de freelance tu parles? Salarié, ça veut dire quoi? C'est CDD, c'est CDI? C'est quoi? C'est des managers? C'est un sales? Donc, il manque beaucoup de choses. Ce que je te conseille, c'est pour ça que je réponds toujours des trucs très généraux aux questions comme ça, c'est fais le strict minimum. Le nécessaire pour que ça fonctionne, et tu cadreras le truc quand ça fonctionnera. C'est beaucoup plus facile quand tu gagnes de l'argent, etc., de te poser la question de et bon, bah, est-ce que je suis prêt à payer les charges sociales sur quelqu'un et tout? Que quand tu n'en gagnes pas. Donc nous, on a commencé avec des freelances, ensuite on a passé tout le monde en CDI pour faire clean. Quelles ont été tes premières actions pour commencer Kodak? Je pense que c'était... Bon, la première chose, c'est apprendre à faire du Facebook Ads. Hein, donc je l'ai appris, moi, en aidant gratuitement des gens par la pratique. Je te conseille d'aller très très vite à la pratique si tu veux apprendre quelque chose. Et ensuite, ça a été de partager du contenu. Voilà. Pour réussir, tu penses que le travail représente combien de pourcents? Bah, je pense pas que ce soit un pourcentage, hein. C'est pas et tant de pourcents c'est ça, tant de pourcents c'est ça. Je pense que c'est plutôt un rapport de facteurs, donc de multiplication. Et je pense qu'un résultat dans n'importe quelle discipline, c'est ton travail fois la chance fois ton unfair advantage, à peu près. Ou disons le sujet sur lequel tu travailles et ta différenciation. Donc ouais, si c'est pas étant une histoire de pourcentage, si le travail vaut zéro, évidemment tout vaut zéro. C'est aussi pour ça d'ailleurs. Disons la semaine de 4 jours, on y revient toujours. Je veux dire, quand tu retires 20% de ton travail par semaine, t'as intérêt à ce que ça soit compensé par un énorme unfair advantage ou alors un gain de productivité, parce qu'on peut aller plus loin dans la formule aussi. Hein. Mais je la garde pour plus tard parce que je vais faire un épisode sur la performance personnelle. On peut dire que par exemple, le facteur travail dont je vous parlais, c'est le temps de travail fois l'efficacité. Et donc, quand quelqu'un te dit je vais travailler que 4 jours par semaine, si tu perds 20% de temps de travail, tu as intérêt à compenser d'au moins autant sur l'efficacité. Sinon, ça ne marche pas. Le deal n'est pas très bon. Pour que ça fasse la même chose. Bref, je me suis un peu égaré. On continue. Un bad buzz est quand même un buzz vrai ou faux selon toi? Alors là, tu as employé deux fois le mot buzz. Donc un bad buzz est toujours un buzz. Ça fait toujours de la visibilité. Ça reste un buzz. Mais la question, c'est à quoi ça sert? Et ça, pour répondre, ça dépend de ta marque personnelle. Ça dépend de pourquoi est-ce que tu t'es fait connaître. Malheureusement, non, il y a pas la mauvaise publicité, ça existe. Hein. Tu peux te faire éteindre. Tu peux te faire éteindre ton business sur une merdouille. Et là où ce que disent les gens, en fait, pourquoi est-ce que les gens disent qu'il n'y a pas de mauvaise publicité? C'est parce que Internet a de la mémoire, mais les gens qui le consomment n'en ont pas. C'est-à-dire que même des gens qui ont fait des trucs atroces, qui sont passés dans. Qui ont fait des trucs atroces, et après, je ne vais pas relier ça directement au fait de passer dans Balance ta Startup, mais je prends l'exemple des. Parce qu'il n'y a pas tous les gens qui sont passés dans Balance ta Startup qui ont fait des trucs atroces. Mais quand tu passes dans Balance ta Startup, toujours tu as l'impression que c'est une tempête quand tu es dedans. Et après, en fait, plus personne ne s'en rappelle. C'est un truc de ouf. Donc, c'est pour ça. Mais par contre, oui, non, c'est un effet. Évidemment. Alors, quoi de prévu pour le Q4? Du scale, mon pote, demande Florian. Et avant, c'était Lucas Chantreau. Comment développer un personal brand sur LinkedIn? Merci, t'es le best. Bah écoute, on vient de sortir une vidéo, masterclass. Tu peux aller checker sur YouTube. Comment ferais-tu pour passer une agence de 10K à 100K € par mois? PS, on est... on est... Oh putain, je sais pas, il a mis un emoji là avec deux personnes et virgule T le couronne. T'es le king, on est plus... Désolé Corentin, j'ai pas compris. Bref, comment est-ce qu'on passe de 10K à 100K € par mois? Bon bah même chose, optimisation sous contrainte, il me faut plus de contraintes pour pouvoir te donner une réponse, donc je vais répondre de manière générale. Souvent de 10 à 100K, il faut faire un truc très bien, donc t'as craqué ton canal d'acquisition et une niche de clients sur lesquels tu fais très bien ton service, tu montes jusqu'à 100K et après t'élargis. Est-ce judicieux pour un startup de faire du building public? Risque crédibilité, VC. Alors, c'est... Bah, en fait, si tu veux mytho, est-ce judicieux? Bah, en fait, dire la vérité, oui, c'est un peu dur, ouais. Certaines personnes ne sont pas prêtes à l'entendre, et certainement pas la plupart des start-upers, parce que vous savez que c'est monnaie courante de mentir sur les chiffres. Mais après, il y a building public, tu peux placer un curseur hein, toujours hein, sur le building public. Tu es obligé de raconter comment tu te fais voler un ordinateur par ton employé. Le building public, ça a toujours vocation à être utile. C'est pas laver son linge sale en public et montrer son cul comment t'es allé chier ou tu t'es torché, quoi. Les gens s'en foutent. Faut raconter des trucs utiles pour les gens ou pour toi. Risque crédibilité, VC. Alors, je sais pas si. Oui, les VC sont. Justement, c'est plutôt l'inverse. Hein. Ils sont très contents que t'aies une communauté. Et limite, ça va les attirer sur ton poste. Alors. Quelles sont les vérités contrariantes pour réussir dans la vie? Écoute, c'est marrant parce que c'est le sujet de la vidéo que je vais écrire demain matin et qui va sortir sur YouTube du coup plus tard parce qu'on a pas mal de délais. Mais je vais écrire ça. Je pense que ça va être entre 6 et 8 vérités contre-intuitives sur l'entrepreneuriat. Je n'ai pas encore écrit, mais je vais y répondre. Je suis désolé, ce sera plus tard. Ton associé préféré, demande Mathieu Pimor. Mon associé, toi, évidemment. Beau gosse. Les chaînes de télé vont-elles mourir au profit d'événements tels que le GP Explorer? Non, pas du tout. Je ne pense pas du tout. Ça fait des années qu'on annonce la fin de la télé. Toujours pas le cas. Ça a évolué. Mais ça ne va pas disparaître. Hein. Des postes en alternance disponibles pour la rentrée 2024-2025 pour un bac plus 3. Ouah, putain, 2024, c'est comme si tu me disais on sera où dans 100 ans, quoi? Qui va gagner la Coupe du Monde 2050? Bah, on verra à ce moment-là. Je ne sais pas où on en sera 2024. La rentrée, c'est septembre. Bon, tu imagines, j'espère que tout est mieux, ça sera bien passé. Mais oui, de manière générale, on recrute des alternants. Salut, quelle similitude vois-tu entre les exigences du haut niveau sportif et entreprendre? Écoute, je vois, c'est exactement la même chose et je trouve qu'en fait, les deux sont là pour se servir l'un l'autre. Un entrepreneur comprend très vite comment est-ce que tu pourrais sans sport et quand tu as été bon dans un sport, tu comprends comment tu peux être un bon entrepreneur parce que tu as la discipline. Tu comprends en fait, les deux ont un truc en commun, c'est que ça te fait comprendre que le travail paie. Et le travail a des résultats sur ton quotidien. tu vas à la salle pendant 3 mois et que tu vois des petits muscles, tu fais « Oh, attends, mes actions ont un impact. » Et quand tu travailles et que tu gagnes de l'argent avec ce que tu fais, « Oh putain, mes actions ont un impact sur ma santé financière. » Donc pour moi, c'est la grosse similitude entre les deux. C'est exactement la même chose. C'est du sport de haut niveau, l'entrepreneuriat. Hein. Pas oublier. J'étais aussi en loge. Je ne t'ai pas... Et j'étais aperçu, mais je n'ai pas osé venir. Oh non, Jean 6. Faut venir. Je suis gentil, en plus, je ne suis pas très intimidant. Hein. J'ai une tête d'enfant. Je suis un peu grand, mais je ne pense pas que ça rebute les gens. Mais n'hésite pas, venez me voir d'ailleurs. Si vous me croisez, je serai très content. J'étais aussi dans les loges. Ah bah, un autre... Deux personnes ? C'est pas le même ? Ah non, c'est deux personnes. Ok. Les personnalités qui t'inspirent. Alors, les personnalités qui m'inspirent. J'en ai plusieurs. Je vais dire la première, c'est une personne dont j'admire le courage, c'est le Raptor. Je n'admire pas ses idées, j'admire son courage. Et je trouve ça très stylé, la façon dont il s'exprime, etc. J'admire Alex Hormozy pour sa stratégie de contenu. Ça m'inspire beaucoup ce qu'il fait parce que je me reconnais beaucoup dans le business qu'il est en train de construire. Et qui est-ce qui m'inspire ? J'ai mon associé, Paul, entre autres. Évidemment, les autres, je les admire aussi, mais Paul m'inspire beaucoup sur la partie intelligence pratique et... Enfin, pas intelligence pratique, intelligence théorique, pardon, justement, c'est l'inverse. Et théorisation. Vous voyez, si vous aimez bien les petites théorisations de comptoir que je vous fais là, dites-vous que j'ai un maître à penser, quelqu'un qui est 10 fois plus fort que moi, qui s'appelle Paul Maher, qui écrit une newsletter d'ailleurs, qui s'appelle Solve, S-O-L-V-E, sur Substack, dans lequel il partage ses wisdom en anglais. Très très smart. Voilà, je dirais ces trucs ça. J'ai dit quoi ? J'ai dit je dirais ces trucs ça. Superbe. Bon bah je pense que j'aurais pu aussi dire ce podcast est terminé, ça aurait eu le même résultat. Je ne vais pas prendre plus de questions. Je commence vraiment à fatiguer les amis. J'espère que vous avez quand même apprécié cet épisode de Retout est mignonne, que je termine avec toute l'énergie qu'il me reste. Je vous embrasse. N'oubliez pas d'aller mettre une note sur la plateforme de votre choix. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous.